Le musée de la Chartreuse à Douai propose au public de découvrir une œuvre exceptionnelle de Jan de Scorel, un polyptyque du XVIe siècle qui vient d'être restauré. Anne Labourdette, conservatrice du musée de la Chartreuse de Douai, nous présente le contexte historique et stratégique de l'intégration de cette œuvre à la collection permanente de ce musée promis à un bel avenir. Anne Labourdette, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un grand jour aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Nous célébrons le retour des œuvres de Van Scorel au musée de Douai.
Donc, ces œuvres-là, en quoi elles sont importantes et pourquoi elles sont arrivées finalement ici, à la Chartreuse de Douai?
Alors, elles sont importantes parce que cette œuvre, le Polyptyque de Marchienne, est due au talent de Jan Van Scorel, qui est un peintre néerlandais du XVIe siècle et qui a joué un rôle très important dans la peinture, dans l'histoire de la peinture, pardon, des Pays-Bas à cette époque. Et elle est importante aussi pour le musée de Douai parce que les œuvres de Van Scorel ont disparu à la suite de la crise iconoclaste des années 1560. Et c'est donc sa plus grande œuvre actuellement conservée qui présente en France et en plus ici au musée de la Chartreuse à Douai.
Pouvez-vous nous raconter l'histoire de ce polyptyque ?
Alors, il a une histoire passionnante et particulièrement compliquée. Il est commandé vers 1540 par l'abbé Jacques Kuhn, qui est donc abbé de l'abbaye de Marchienne, près de Douai, une abbaye très riche. Il est commandé à Van Scorel, qui est à l'époque un peintre célèbre, et il est installé dans l'église abbatiale de l'abbaye, dans une des chapelles de cette église, et certainement démembré avant la Révolution. À partir de là, on perd complètement sa trace, et c'est le conservateur du musée de la Chartreuse, qui a travaillé dans ce musée dans les années 1950, Jacques Guillouet, qui va retrouver patiemment, petit à petit, tous les différents panneaux du polyptyque, qui le reconstitue et qui le fait restaurer en 1964.
Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu l'idée du contexte de l'époque entre les abbayes qui étaient relativement nombreuses dans notre région ?
Oui, la région était une région riche et donc plusieurs abbayes étaient implantées, notamment des abbayes bénédictines qui avaient la particularité de respecter une certaine opulence dans les commandes qu'elles pouvaient lancer à des artistes, à des orfèvres pour orner les lieux, hein, les lieux de vie, les lieux de prière, les lieux de travail. Et c'était le cas en particulier de deux grandes abbayes du nord de la France qui étaient l'abbaye d'Anchin, donc là aussi du côté aujourd'hui de Vraide et de Pécancourt, et l'abbaye de Marchiennes, dont nous parlons aujourd'hui. Ces deux grandes abbayes étaient quasiment voisines. Elles étaient aussi concurrentes, puisqu'elles faisaient souvent appel aux mêmes artistes pour décorer leurs églises et leurs murs. Et il y avait une espèce d'émulation et de concurrence entre ces très riches abbayes.
Riches et puissantes ?
Riches et puissantes, puisque les abbés qui les dirigeaient étaient donc des grands commanditaires d'œuvres d'art. Par exemple, un peintre douaisien comme Jean Belgambe a travaillé pour les deux abbayes, Anchin et Marchiennes. Des abbayes puissantes parce qu'elles étaient aussi liées par la personnalité de leurs abbés et des membres de la communauté à des très grandes familles aristocratiques et de noblesse d'épée, en fait, souvent de la région, voire aux Habsbourg eux-mêmes. Donc vraiment des abbayes très riches et puissantes. Et à la Révolution, ces deux abbayes seront d'ailleurs détruites.
Si on compare la richesse et l'action de ces abbayes en faveur des artistes, pas seulement régionaux d'ailleurs, hein, puisque là, en l'occurrence, il s'agit d'un artiste néerlandais, est-ce qu'on peut mettre ça en perspective avec les mécènes actuels ?
Oui et non. On peut le faire dans la mesure où, dans les deux cas, il s'agit d'une initiative personnelle, hein, souvent de personnes assez haut placées, assez riches, qui ont l'entregent, qui ont l'argent, qui ont le goût, la connaissance pour se mettre en relation avec des artistes. En même temps, les abbés donc, qui dirigeaient ces abbayes obéissaient aussi à une volonté personnelle et religieuse que n'ont pas forcément les mécènes actuels. Donc ils ont commandé à Scorel et à Belgambe des œuvres qui n'étaient pas uniquement pour l'agrément, hein, loin de là, mais qui servaient aussi d'explication à des propos théologiques qu'ils souhaitaient eux-mêmes en tant qu'abbés voir renforcés au sein de leurs abbayes. Donc je dirais, il y a des similitudes, mais on ne peut pas tout à fait les mettre sur un même plan. Et c'est vrai qu'on utilise souvent le mot mécène pour parler de ces abbés commanditaires. Je pense à Charles Cauguin, à l'abbé d'Anchin et à Jacques Kuhn. En même temps, ce ne sont pas des mécènes au sens strict du terme, ce sont des commanditaires d'œuvres, mais ils le font aussi pour le bien de la communauté.
Voilà, donc ces commandes, elles entraient quand même dans un cadre artistique, même esthétique. Là, on est dans une certaine époque qui reflète bien au niveau du tableau, des tableaux, ce temps particulier.
Oui, dans les œuvres de Vance Corell qui sont exposées aujourd'hui au musée de la Chartreuse, vous verrez en particulier l'influence de la peinture italienne que Vance Corell avait découvert au début du XVIe siècle lorsqu'il s'est rendu à Rome et à Venise. Et donc, ces peintures sont des témoins du temps, des témoins de la peinture qui était en œuvre en Italie au début du XVIe siècle, qui a vraiment fait l'admiration de ces peintres qui venaient du Nord et qui a amené Vance Corell à changer radicalement sa manière de peindre et par là même à influencer tous les peintres qui suivront. Et donc dans la peinture que l'on voit des œuvres de Scorel, vous verrez en particulier de très belles études de drapés, de costumes, de vêtements qui doivent aussi beaucoup à sa découverte des costumes italiens, aux coloris employés par les Italiens pour se vêtir, et Vance Corell l'a retraduit dans sa peinture.
Donc cette œuvre ou ces œuvres, hein, comment on les conçoit, enfin, c'est un polyptyque, donc au départ c'est une œuvre qui est concentrée, là on la retrouve un peu éclatée. Comment vous concevez à long terme sa disposition, sa mise en valeur ?
Alors dans un premier temps, malheureusement, nous serons obligés de la conserver éclatée, comme vous disiez, puisque les panneaux ont été divisés dans leur épaisseur au XIXe siècle. Actuellement, on voit donc panneau par panneau. Même si j'aimerais beaucoup, pour des raisons de cohérence historique et artistique, remonter ce polyptyque en retable, c'est-à-dire articuler les panneaux les uns avec les autres, comme il était vraisemblablement à l'origine.
Donc une fois que cette œuvre sera restituée dans sa logique, comment elle sera intégrée à l'ensemble des œuvres et comment elle participera à la logique de ce musée de la Chartreuse ?
Dans un premier temps, les œuvres vont être accrochées dans le réfectoire des Chartreux, qui conserve déjà le grand polyptyque réalisé par Jean Bellegombe pour l'abbaye d'Anchin. Donc, en quelque sorte, le polyptyque de Marchienne va se retrouver en pendant de celui d'Anchin, et nous parlerons à ce moment-là plus d'une mise en relation de ces grandes commandes artistiques menées par les abbés du nord de la France. Dans un second temps, ce que j'aimerais bien, en fait, c'est plutôt faire raccrocher ce retable dans la salle dite salle italienne du musée, pour justement en fait montrer à quel point l'Italie est présente dans les œuvres du Hollandais Vance Corell et à quel point elle a pu influencer la pratique de ce peintre.
Donc ce musée de la Chartreuse, il a une spécificité. Sur quelle période il constitue sa collection ?
De la fin du Moyen-Âge à la fin du XIXe siècle, essentiellement, nous n'avons que très peu d'œuvres du XXe, très peu d'œuvres contemporaines, même si nous essayons par une politique d'exposition temporaire de faire vivre cette partie-là de l'art de notre époque. Et donc, du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XIXe siècle, nous nous organisons autour de trois pays, essentiellement la France, les Flandres, les Pays-Bas et aussi l'Italie.
Donc ce musée est l'un des grands musées de la région Nord-Pas-de-Calais. Comment il fonctionne ? Quelle est la synergie avec les autres musées ? Et l'arrivée du Louvre, qu'est-ce que ça peut changer ?
Alors, il a toujours fonctionné en partenariat avec les autres musées de la région, qui sont pour certains d'entre eux de taille similaire. Et il y a toujours eu un travail en complémentarité, en réalité, qui a été fait avec ces différents musées par le biais de l'Association des conservateurs, des musées du Nord-Pas-de-Calais. Notamment, nous participons aux expositions en réseau menées par cette association. Et c'est vrai que l'arrivée du Louvre-Lens va bouleverser considérablement la donne, puisque le Louvre-Lens sera distant seulement d'une vingtaine de kilomètres. C'est un musée d'un type inhabituel dans la région, qui n'a pas la même histoire et le même passé que les autres musées que nous y trouvons actuellement. Et effectivement, nous souhaiterions, nous sommes très demandeurs pour travailler toujours en partenariat et en complémentarité avec le Louvre-Lens. Mais bien entendu, nous ne pouvons pas parler de concurrence, nous ne sommes pas sur le même pied.
Donc ce Louvre-Lens est très attendu, il est une réelle volonté politique régionale, il s'inscrit dans un plan de développement d'un territoire qui en a bien besoin. Pour une certaine partie de la population, il est relativement décrié parce que les priorités pour elles sont d'abord l'emploi, les problèmes liés à leurs difficultés sociales. Comment on peut entrevoir une ouverture de cette région grâce justement à l'industrie culturelle qui va se développer, déjà peut-être en 2012, on l'espère, et sur de nombreuses années. C'est un investissement sur l'avenir considérable. Comment vous ressentez les choses ?
Je pense que c'est en fait un véritable défi puisque le Louvre-Lens va arriver dans une région qui comportait en réalité déjà beaucoup de musées, qui était donc très loin d'être un désert culturel, qui dépend d'un conseil régional qui a pris en charge la compétence culturelle et qui a fait beaucoup pour le développement de la culture dans la région et pour changer un peu l'image de cette région à l'extérieur. Mais le Louvre-Lens va certainement parachever cet édifice, si je puis dire, enfin cette tentative de donner vraiment et d'appuyer le côté culturel de la région, même si à mon sens, il arrive dans un climat économique et social qui est difficile, pour lequel j'espère que sa venue ne sera pas mal interprétée par les habitants et j'espère qu'il va justement arriver à créer un lien supplémentaire entre les habitants de la région et les œuvres, la culture qui est la nôtre.
Donc ce vaste plan de développement culturel s'inscrit aussi dans l'existant euro-régional, je pense à Gand, Anvers, à Bruges, etc. Je veux dire, on est dans une région, euro-région, particulièrement riche.
Oui, et d'ailleurs, comme à l'époque où ce polyptyque a été peint, c'est-à-dire au XVIe siècle, cette région-là dépendait en grande partie encore des Flandres et non pas de la France. Et donc, nous faisions partie du même pays et du même territoire que Gand, Anvers ou Bruges, à la limite. Et donc, il y a toujours eu cette tradition de villes particulièrement actives et florissantes sur le plan culturel. Et on le voit encore aujourd'hui, on a beaucoup de projets qu'on mène en partenariat avec nos collègues belges, avec les villes flamandes en particulier. Et j'espère bien que justement, l'apport de visiteurs, l'apport de médiatisation apporté par le Louvre-Lens ne fera vraiment que contribuer à ce mouvement dynamique et culturel. En réalité, on se sent beaucoup plus ici appartenir à un cœur d'Europe qu'à la France. On est dans un sens plus proche des Belges que des Marseillais.
Finalement, au fil du temps, on retrouve des racines, une histoire, une vie en commun avec de nombreuses personnes de cet ensemble que vous venez de décrire. C'est un retour à l'histoire qui est assez étonnant.
En réalité, ça a toujours été le cas. Après, les frontières administratives ont fait qu'effectivement, la vie de la région a été beaucoup plus tournée vers la France. Mais finalement, les échanges culturels, déjà à l'époque, étaient très forts entre l'actuelle Belgique et nous, nord de la France. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils sont nos voisins les plus proches. Et au fond, c'est quand même une mentalité qu'on partage en commun, une histoire aussi qu'on partage en commun. Et j'espère bien que ça va continuer. On travaille quand même relativement fréquemment et souvent avec eux. Donc, nos questions sont les mêmes et j'espère que les réponses qu'on y apporte le sont également.
Merci pour votre éclairage, Anne Labourdette, et bonne continuation.
Merci.
C'était Anne Labourdette, conservatrice du musée de la Chartreuse à Douai, un musée ouvert tous les jours sauf le mardi. Renseignements au 03 27 71 38 80. Ce sujet a été réalisé par René Lavergne de Radio Campus.